En République démocratique du Congo, les avancées de l'armée nationale et de ses alliés régionaux, en l'occurrence l'armée ougandaise, montrent une gêne parmi certaines organisations internationales et même les ONG. En République démocratique du Congo, la protestation des autorités politico-militaires est vive après l'annonce de l'Organisation médicale internationale Médecins sans frontières de quitter les localités de Nizi et Bambou dans la province de l'Ituri. Le lieutenant-général Johnny Luboya, donc Kachama, gouverneur de la province d'Ituri, accuse MSF de chantage dans une période où les populations déplacées regagnent les deux localités désormais sous contrôle de l'armée. Rien ne justifie aujourd'hui le retrait de MSF, selon le gouverneur militaire qui rejette également les accusations d'impunité. Il assure également que les enquêtes avaient été menées après les attaques contre MSF qui avaient été victimes en octobre dernier. Les auteurs sont de la milice Codeco. Mais visiblement, pour MSF, un retour de déplacés civils et la sécurisation de la zone sont les vraies raisons qui poussent l'ONG à se retirer. C'est paradoxal, mais bon, visiblement, le siège militaire mis en place par Kinshasa et les alliances intra-régionales continue de provoquer du remue-ménage auprès des organisations internationales. La décision de MSF arrive 4 mois après l'attaque perpétrée à l'encontre d'un convoi humanitaire de l'organisation par des hommes armés non identifiés. Pour rappel, deux membres de MSF avaient été grièvement blessés par balle le 28 octobre 2021 sur la route entre les localités de Nizi et Bambou dans le territoire de Djougou. MSF constate l'absence prolongée de garanties de sécurité de la part des différents acteurs qui s'affrontent dans la région. En effet, l'organisation attendait de la part des parties au conflit au moins 2 réactions. La condamnation ferme de cette attaque et un engagement fort en faveur du respect du droit international humanitaire et de la mission médicale, à savoir les structures sanitaires, le personnel soignant, les ambulances, les patients et les blessés. Même l'enquête demandée à cette époque est restée sans résultat à ce jour. Cela dit, que ce soit en RDC ou même à travers toute l'Afrique, donc ces pays africains attendent toujours également donc des condamnations fermes de toutes les attaques contre les civils et les militaires nationaux, donc de la part notamment de ces ONG et aussi des États occidentaux donc qui se disent alliés à ces pays africains. Selon le responsable des programmes de MSF pour la RDC, cette situation est intenable et nous contraint à fermer ce projet. Les risques sont tout simplement trop élevés pour MSF de retourner dans ces zones en confiance. Cette décision nous bouleverse car elle va avoir des conséquences désastreuses pour une population dont les besoins sont aigus. Notre mission est de sauver des vies, mais pas au prix des nôtres. Déjà en juin 2021, l'hôpital général de référence de la ville de Boga, soutenu par MSF, avait été sévèrement endommagé après des combats urbains. 12 personnes y avaient perdu la vie, plusieurs bâtiments dont l'unité de soins intensifs avaient été incendiés, la pharmacie et le stock médical pillés. Nous sommes inquiets face aux nombreuses attaques et au pillage des structures sanitaires. Nous sommes profondément troublés par le climat d'impunité qui règne aujourd'hui dans cette partie de la RDC, souligne le chef de mission MSF en RDC. MSF ne quitte pas pour autant l'Ituri dans son entièreté. Il continuera à apporter une assistance humanitaire en Ituri, Drodro et Angoumou, où l'organisation est présente depuis plusieurs années. Et en d'autres termes, là où l'ONG a encore un accès aux groupes armés dans la région. Ces faits se sont produits donc en 2021, ce qui veut dire que la donne est différente actuellement, comme l'a rappelé le lieutenant-général Kachama, gouverneur de la province d'Ituri. Maintenant que la zone est sous le contrôle de l'armée nationale et qu'il y a un retour des déplacés, pourquoi est-ce que MSF doit se retirer maintenant ? Les excuses avancées par MSF se sont produites en 2021, donc MSF aurait dû se retirer à ce moment-là. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Un comportement qui montre simplement que, contrairement à ce que montrent les médias mainstream qui veulent absolument prouver que les initiatives du gouvernement congolais sont mauvaises et que le fait que l'armée congolaise et ses alliés régionales n'arrivent pas à sécuriser les territoires de l'Est. Mais qu'en est-il de la MONUSCO dans cette histoire? Elle a réussi à sécuriser une parcelle de territoire en 20 ans de présence. Les ONG et l'ONU ont le même comportement dans toute l'Afrique, tout comme les armées occidentales. Là où elles sont présentes, la guerre s'amplifie considérablement. Et ça, c'est un fait. Au Mali, les pressions s'accentuent sur Bamako et nous pouvons évidemment sentir l'ombre de la France dans ses tentatives de déstabilisation. Donc, outre la présence de groupes armés terroristes que la France a formés, on peut voir de nouveau les groupes signataires de l'accord dans le nord du pays. Donc là, ce fameux accord très controversé d'Alger menaçait carrément Bamako. Selon certaines sources maliennes, les tensions seraient récurrentes entre Bamako et les groupes armés indépendantistes. Des événements similaires survenus ces dernières années n'ont pas dégénéré en guerre ouverte, mais faudra-t-il s'attendre à une simple répétition de cet épisode quand la coordination des mouvements de l'Azawad commence à se sentir en danger contrairement à ces dernières années ? Ou bien le risque est-il cette fois plus élevé maintenant que la France a décidé justement de sauver sa propre face et de venger ses humiliations répétées suite à la politique souverainiste de Bamako ? La CMA a de nouveau rouspété contre le retard pris dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation et les soubresauts que cela pourra engendrer si rien n'est fait dans les plus brefs délais. À ses yeux, toute révision de cet accord qui renferme pourtant les germes d'une partition du pays reste toutefois inacceptable. La CMA est particulièrement sensible à la question, d'autant qu'elle redoute que ses acquis importants ne filent entre ses doigts. Une partition du Mali, c'est ce que recherche la France à travers ses groupes. L'actuelle montée des tensions s'inscrit dans un contexte particulièrement délicat pour le Mali, dont les soldats sont engagés dans la lutte contre les terroristes qui reculent considérablement face à l'armée malienne. De plus, la volonté de la CDAO et de la communauté internationale de vouloir détruire le Mali est de plus en plus visible. Donc la question est pourquoi, notamment, la CMA ne s'allierait pas avec Bamako pour sécuriser l'entièreté du territoire, s'ils sont réellement de bonne foi. Pour rappel, en août, le gouvernement malien avait littéralement remonté les bretelles à la CMA qui est accusée d'actes attentatoires à la souveraineté nationale et lui reproche de violer l'accord de paix d'Alger. Le gouvernement dit, dans un communiqué constaté avec indignation, que depuis un moment, la coordination des mouvements de l'Azawad s'arrogue des actes régaliens de l'État en violation flagrante des termes de l'accord de paix d'Alger. La CMA, alliance à dominante Touareg d'anciens groupes armés rebelles, est signataire de cet accord de 2015 avec une alliance de groupes armés pro-gouvernementaux. La mise en œuvre de cet accord ainsi que le redressement de l'autorité de l'État sont considérés comme des composantes politiques indispensables à une sortie de crise, en plus de l'action purement militaire menée par les forces armées maliennes pour sécuriser le territoire malien. L'accord d'Alger tarde donc à être appliqué et de vastes étendues du nord du Mali demeurent sous le contrôle des ex-rebelles indépendantistes. Les actes anti-républicains de la CMA vont d'une prétendue grâce accordée à des détenus à la délivrance d'autorisations de déplacement sur des sites d'orpaillage en passant par le refus de recevoir les médecins en charge, notamment de la lutte contre la maladie du coronavirus, détaille le gouvernement. La CMA menace de reprendre les hostilités, mais la moindre attaque perpétrée contre les forces armées maliennes provoquerait, cela dit, de très lourdes conséquences. Le problème de l'accord d'Alger est que son application est extrêmement laborieuse, comme l'expliquait il y a un an déjà International Crisis Group. L'équipe aujourd'hui au pouvoir donc promet de respecter les principes fondamentaux et insiste sur une relecture intelligente de l'accord de paix, respectant également les intérêts du Mali et du peuple malien, évidemment. Avant et après sa nomination, le Premier ministre Choguel Kokana Maïga s'était toujours montré en tant que farouche opposant à l'accord d'Alger. Cet accord ne se mettra pas en place tant que le pays sera encore enclin à l'insécurité. Et quoi qu'il en soit, certaines parties dans les groupes vivant au nord du pays sont appuyées par la France. C'est en l'occurrence ceux qui sont pour un démembrement du Mali et qui veulent absolument accélérer la mise en place de cet accord. En d'autres termes, ils veulent rajouter une couche dans la déstabilisation du Mali pour pousser au démembrement et ne pas laisser les autorités maliennes procéder évidemment à une relecture intelligente de l'accord sans la présence cette fois-ci de la France. Et ça, c'est visiblement un point qui dérange encore. La France voit toutes les portes se refermer devant elle. Bamako anticipe et reste prudent face à cette puissance néocoloniale qui ne veut pas lâcher le Mali tant qu'elle ne verra pas sa chute. Bamako continue toutefois dans sa voie souverainiste et c'est ce qui compte pour le peuple malien. Les États-Unis accentuent leur présence en Afrique de l'Ouest et surtout dans le golfe de Guinée. On a pu constater ces derniers mois que la Côte d'Ivoire est devenue le terrain que Washington a choisi pour s'installer et mener ses opérations néocolonialistes en Afrique de l'Ouest, visant dans un premier temps le Mali, mais également sa politique de recolonisation du golfe de Guinée. Outre les exercices militaires mis en place en Côte d'Ivoire le mois dernier avec essentiellement les pays occidentaux et seulement 4 pays africains dans la liste des participants, l'Africom remet ça cette semaine dans le golfe de Guinée. L'édition 2022 des manœuvres de l'exercice Obangame Express dans les eaux sous juridiction nationale s'est achevée vendredi 18 mars dans un franc succès selon l'officier américain Wyatt Bayen. Les États-Unis d'Amérique se réjouissent que l'organisation de l'édition Obangame Express 2022 soit couronnée de succès. Nous répondrons à chaque fois présent dès qu'il s'agira d'appuyer les initiatives de renforcement des capacités des dispositifs régionaux, comme l'a déclaré le commandant de Wyatt Bayen, donc de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Obangame Express, qui signifie la coopération dans un patois du Cameroun, est un exercice régional en mer qui se tient dans le golfe de Guinée à partir de l'Angola jusqu'au Sénégal pour lutter contre la piraterie maritime, la pêche illicite, le trafic d'armes, le narcotrafic, des phénomènes qui gangrènent le domaine maritime. En Côte d'Ivoire, les scénarios de piraterie maritime, de narcotrafic, de pêche donc illicite, de sauvetage et recherche en mer et de pollution marine se sont réalisés sans incident. L'engagement des forces aériennes par des survols des zones d'exercice a été un succès au regard de la belle coordination avec les centres opérationnels mis en œuvre dans les manœuvres en mer, selon le directeur des exercices Obangame Express, le capitaine de corvette Anoman Lechi. Pour cet officier supérieur de la Marine nationale, des objectifs spécifiques de cette manœuvre militaire sont atteints parce qu'il s'agissait entre autres de tester l'interopérabilité entre les marines et entre structures nationales, régionales, européennes et surtout américaines dans un large éventail d'activités navales. En marge des exercices pratiques en mer, les chefs d'état-major des marines et des gardes-côtes du golfe de Guinée se sont réunis pour tenir des discussions de haut niveau sur les problématiques et défis majeurs relatifs à la sécurité maritime dans la sous-région. Ces exercices qui ont démarré donc le 11 mars à la base navale d'Abidjan sont mis en œuvre chaque année par les pays du golfe de Guinée, de l'Angola jusqu'au Cap-Vert, à l'effet de renforcer donc les capacités de leur marine, mais également renforcer davantage le réseau régional. Le golfe de Guinée est présenté comme la zone maritime la plus dangereuse au monde, selon le Maritime Information Coopération et Awareness Center. 51 navires ont été attaqués ou piratés et 142 marins ont été enlevés en 2020 dans ces eaux. Aucune statistique pour 2021, évidemment, car ces statistiques sont nettement en baisse. Mais on va vous expliquer après pourquoi. Il est important de savoir une première chose, tout d'abord, c'est que la piraterie maritime était particulièrement présente au large de la Corne de l'Afrique, particulièrement dans le détroit de Bab el-Mandeb, mais depuis l'arrivée des navires russes et iraniens dans cette région, et le déploiement de la base militaire chinoise à Djibouti et la base militaire navale russe en Érythrée, la donne a littéralement changé. Maintenant, c'est le golfe de Guinée qui se trouve être devenu l'endroit le plus dangereux au monde à cause de la piraterie et surtout du fait que tous les navires de guerre occidentaux ont quitté la Corne de l'Afrique pour venir vers le golfe de Guinée. Mais les statistiques fournies par la Maritime Information Coopération Awareness Center ne montrent évidemment pas la nationalité des navires et marins victimes de la piraterie maritime. Car ceci serait tout de même intéressant de se pencher sur cette réalité grossièrement cachée par les institutions occidentales. Eh bien, ce sont les navires et marins russes, chinois et turcs qui sont les principales victimes de la piraterie, ou les navires qui ont pour destination des pays ennemis de l'Occident, comme par exemple la Guinée équatoriale. Les Américains, Français, Allemands ou Italiens ou même Danois, qui sont pourtant fortement présents dans le golfe de Guinée, n'ont jamais été inquiétés par la piraterie. Ce qui est tout de même étonnant, et donc de nouveau, on n'a pas encore vu de combat contre la piraterie impliquant des navires de guerre occidentaux. Les seuls qui se sont réellement battus contre la piraterie, c'est notamment le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Nigeria. Et d'ailleurs, en février 2020, une riposte coordonnée des marines camerounaises et équato-guinéennes avait permis de mettre en déroute plusieurs pirates qui, dans la nuit du lundi 8 février, avaient attaqué un tanker à environ 115 nœuds au large des côtes du Cameroun. Et cette réponse combinée a fait fuir la dizaine donc de pirates avant qu'ils ne puissent accéder à la citadelle de protection du navire. Encore une fois, on constate que les nombreux navires de guerre occidentaux présents dans le golfe de Guinée servent principalement à protéger les intérêts des occidentaux et non à combattre la piraterie. Et entre guillemets, ils sont là également pour effectuer de nombreux exercices maritimes et rien d'autre. Tout comme pour le terrorisme dans le Sahel.
Le gouvernement éthiopien reporte la privatisation partielle de l'opérateur historique Ethio Telecom. En 2021, le gouvernement d'Éthiopie a lancé une procédure d'appel d'offres pour la privatisation de la société télécom publique. Plusieurs entreprises, dont le français Orange, ont manifesté leur intérêt. Ils doivent encore attendre pour commencer la vraie bataille. Le gouvernement éthiopien a reporté le processus de privatisation partielle de l'entreprise publique de télécommunications Ethio Telecom en raison de l'environnement économique national et mondial. L'annonce a été faite vendredi 18 mars par le ministère des Finances sur son compte Twitter. Le président sénégalais Macky Sall a donné lundi le coup d'envoi du 9e forum mondial de l'OAD et Diamnia Diop près de Dakar en vue de sonner l'alerte sur la raréfaction des ressources hydriques dans le monde et en particulier en Afrique. Le président Macky Sall a souligné dans son discours d'ouverture que le forum se réunissait au Sénégal alors que la raréfaction des ressources hydriques et la dégradation de l'environnement continuent de s'aggraver. Selon Macky Sall, qui cite un rapport de l'ONU, la situation n'est pas rassurante, notamment car 2 personnes sur 5 dans le monde vivent dans des régions où l'eau est rare. Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pire, a-t-il dit en assurant que le 9e forum mondial de l'eau était l'occasion de sonner l'alerte sur la gravité de la situation. Le Fonds monétaire international FMI a recommandé mardi au gouvernement burkinabé d'engager des réformes exceptionnelles durant la période de 3 ans de transition. Notre objectif est de marquer notre solidarité au Burkina Faso à travers la visite chez le Premier ministre. Il y a eu changement, il faut profiter de ce changement pour mettre en œuvre les réformes qui étaient en jachère. Il faut en profiter pour mettre en œuvre des mesures exceptionnelles pour ne pas perdre cette opportunité, a déclaré l'administrateur suppléant représentant le Burkina Faso auprès du conseil d'administration du FMI à l'issue d'une audience avec le premier ministre burkinabé Albert Ouédraogo. Au Tchad, la commune d'Abéché et les communes de province du Nord ont organisé un atelier d'échange et d'expérience ce 21 mars 2022 dans la salle de réunion de la GIS. Cet atelier de 4 jours regroupe les représentants des 4 communes venues de Barda, Ufada, Faya et d'Abéché. Il s'inscrit dans le cadre du projet de développement à intégrer des communes du nord du Tchad, lancé le 18 septembre 2019 à Faya. Le projet couvre les provinces du Borkou, de l'Enedi Ouest et du Tibesti. Son objectif est de réduire la vulnérabilité de la population, plus particulièrement des femmes et jeunes.